à cœur de vous parler d'un coup de main. Si vous avez besoin d'un coup de main, en fait, vous allez découvrir de quoi il va être question. Mais tout d'abord, nous allons lire quelques textes. Le premier texte dans... Tout d'abord dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, les versets 16 à 20. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Merci. Oh, merci. Ils recevront une télécommande. Ah non. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travailla avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Puis, dans la lettre de Paul à Timothée, son apprenti, enfin, jeune pasteur qu'il avait formé et qu'il avait suivi. D'abord dans 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Chapitre 5, verset 22. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Puis, on tourne la page dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Oh, vous avez certainement déjà discerné de quoi il va être question ce matin. Les questions d'imposition des mains, l'imposition des pieds n'est pas scripturaire. Est-ce que vous avez entendu les merles chanter déjà en ce début d'année? Oui, hein? Ben, c'est beaucoup trop tôt pour un début février, fin janvier, début février, vous êtes d'accord? Ce petit air de printemps en janvier, ça n'est pas très normal. Et c'est peut-être ce qui m'a inspiré à débuter ce message en vous parlant des oiseaux. Vous les aimez, les oiseaux, c'est certain. J'ai un membre de ma famille, une belle fille, qui est en pâmoison devant les oiseaux, et je la comprends. Bon, pas forcément ceux qui sont en cage, mais les libres, les oiseaux libres, nous les aimons. Et pourquoi les aime-t-on ? Peut-être pour leur couleur, mais je crois surtout pour leur chant. Et il faut reconnaître qu'ils sont plutôt habiles, hein, quand on entend cette magnifique symphonie du printemps. Chez nous, on est tellement proche des arbres qu'à 5 heures du matin, bien voilà, on est réveillé. Et il y a un merle, bon parfois j'ai des envies de meurtre, il se place sur le figuier en face de la chambre à coucher, mais à 3 mètres, et ça y va. Hein? Ben là, après, vous avez dormi. Il paraît que les oiseaux ont une vue extraordinaire. Et eux, ils n'ont pas besoin de piailler. Où sont mes clés? Où sont mes lunettes? N'est-ce pas? Mais ils ont les ailes. Et ils peuvent voler. Ça, c'est le rêve de l'homme. On les admire. Et c'est peut-être pour cela qu'on les observe de si près. Et même parfois, quand il le faut, on les nourrit. Mais on ne les envie pas. Ils n'ont pas de main. Tout dans le bec, avec lequel ils doivent absolument tout faire. Se lustrer les plumes, décortiquer leur nourriture, se fabriquer un nid, se défendre, nourrir leurs oisillons, tout dans le bec. N'ont pas de main. Et nous, humains, lorsque nous sommes privés pour une raison ou une autre de l'usage de l'une de nos mains, Qu'est-ce que nous sommes handicapés, qu'est-ce que c'est difficile, n'est-ce pas? Ceux qui ont cassé un poignet, un bras ou autre chose, eh bien, vous savez ce que c'est d'être privé d'une main. Ne critiquons pas l'œuvre du Créateur qui a fait toutes choses merveilleuses. Imaginez un peu s'il avait donné des mains aux oiseaux. Ben, peut-être que quand on essaie de les approcher ou de les attraper, ils nous feraient comme ça. Hein? Et ils seraient bien trop entreprenants, les oiseaux, si en plus de savoir voler, ils avaient des mains. Parce que voyez-vous, avec leur vue exceptionnelle, ben, ils seraient capables d'actions pas toujours très recommandables. Et seraient les petits tyrans de la création, les oiseaux, s'ils avaient des mains. Donc, tout est bien. Et puis, je pense que vous n'avez pas de peine à comprendre pourquoi le Seigneur n'a pas fait d'elle aux vaches. Merci Seigneur. Oh. Les mains. Quel instrument. Regardez vos mains. Regardez-les. C'est merveilleux, une main. Du reste, si on veut réduire un homme à l'impuissance et à la dépendance complète, ben, il suffit de lui passer les menottes. La tête pense, mais les mains exécutent. Elles sont donc, par excellence, le symbole de l'action bienfaisante ou malfaisante. Le psalmiste illustre l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu de cette manière, au psaume 95. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Puis au psaume 8, les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Et Job, lui aussi, déclare, la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. Ainsi, il n'est pas étonnant que la main soit, entre autres, l'instrument d'action spirituelle importante. Regardez vos mains encore une fois. L'instrument d'action spirituelle importante. Par exemple, les mains posées sur quelqu'un, ben ces mains peuvent être le symbole, mais aussi un contact destiné à une transmission, à une communion réceptrice et créatrice. Vous n'aviez pas conscience que vos mains avaient cela en elles, n'est-ce pas? Et dès les temps anciens, les mains ont été requises pour une indispensable transmission ou une décharge de la culpabilité. Et pour cela, j'aimerais vous citer un texte, vous lire un texte du Lévitique. C'est une ordonnance qui avait été donnée à Moïse. Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride où il sera chassé dans le désert. Vous trouvez cela dans Lévitique chapitre 16. Imposition des mains qui transmet sur cette victime, ce bouc, Azazel, et qu'on chasse dans le désert. Quant à nous, la victime chargée de nos péchés, le sacrifice parfait, chassé, abandonné, pour un instant de la présence du Père, c'est bien le bien-nommé Yeshua, qui veut dire sauveur, Jésus. parlons un petit peu des mains de bénédiction. En Genèse, nous voyons les patriarches qui placent leurs mains sur la tête de leurs descendants pour les bénir. En fait, qu'est-ce que bénir? Benedicere en latin. Bénir, ça veut dire dire du bien. Ainsi, bénir à la manière des anciens, c'est dire du bien de quelqu'un à Dieu, en lui demandant que lui aussi dise et fasse du bien à celui sur lequel on impose les mains à ce moment-là. Enfin, quand parfois l'esprit prophétique se saisit de celui qui pose ses mains sur la tête de quelqu'un, c'est pour que ce dernier entre dans l'approbation de Dieu et dans l'attente réceptrice de la foi. Pourquoi est-ce que nous prophétisons parfois sous l'inspiration de l'Esprit-Saint sur les personnes? Pour que les personnes, à leur tour, entrent dans cette démarche de foi et de réception. Vous comprenez? Presque inutile de préciser que pour que cette bénédiction soit possible, l'harmonie doit régner. Ainsi, ceux qui demandent l'imposition des mains et la bénédiction doivent comprendre que Dieu doit pouvoir dire du bien de leur attitude. C'est pourquoi, avant l'acte de bénédiction, il est juste de se mettre en règle avec le Seigneur. Parce qu'on ne vient pas vers un magicien qui arbitrairement envoie un acte miraculeux. Nous venons vers Dieu. D'où l'importance, avant de recevoir l'imposition des mains, peut-être de faire un peu le ménage dans sa vie et de se mettre en règle avec le Seigneur. Ceci dit et compris, précisons que Dieu ne bénit pas seulement les parfaits, mais ceux qui, dans leur état, avec leur brisure, avec leur cassure, avec leur approximation, qui, dans leur état, aiment Dieu et se confie à sa grâce en appelant et en accueillant l'action de ses mains à lui. Donc l'imposition des mains n'est pas pour les petits saints qui n'ont jamais volé de confiture, hein? Mais l'imposition des mains est pour ceux qui se font pas de cinéma, savent qui ils sont devant Dieu et sont conscients de qui Dieu est pour eux. Ainsi, les mains humaines qui se posent sur celui qui se présente devant Dieu sont comme des signes visibles et sensibles de l'action promise du Tout-Puissant Seigneur. On a vu les mains de bénédiction, ce qu'elles représentent, et je crois qu'il y a un petit problème là avec... Il y a cet effet qui accroche un peu. Ah, qui cherche trouve, dit la parole, bon courage. Les mains de communion. Quand au cours d'un culte, nous nous donnons la main, ça nous arrive, c'est joli. Qu'est-ce que nous déclarons? Nous déclarons par là que nous sommes en communion, en commune union. D'accord? Deux amoureux qui se donnent la main, Maxime, hein, d'accord, signalent ainsi qu'ils s'aiment et qu'ils sont en communion. Et c'est encore plus touchant quand deux époux bien moins jeunes, liés pour la vie, se donnent parfois la main, se promenant, montrant ainsi que, entre guillemets, ça dure. Et selon Dieu, ça devrait durer. L'imposition des mains, signe de communion et de confiance. On communie avec celui ou celle à qui on impose les mains. On s'identifie à son besoin. On se met à son niveau. Avec son problème. Et on unit sa foi à la sienne. Et on lui aide à réaliser et à accueillir ainsi l'accomplissement des promesses de Dieu. Et dans ce qui est un acte de communion, de commune union, celui qui prie pour éventuellement, celui qui prie, il peut alors à ce moment-là éventuellement mieux discerner l'état ou l'attitude de celui avec qui il prie. Je pense que c'est arrivé à tout serviteur de Dieu, priant pour quelqu'un, de recevoir un discernement de l'état de la personne pour laquelle il ou elle prie. C'est du domaine du possible par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parlons un peu des mains de Jésus. Il y a toutes sortes de mains. Si j'avais pu regarder toutes vos mains, j'aurais pu faire un inventaire. Il y a des mains usées par de trop rudes labeurs. Je pense aux mains d'Angelo qui ont construit tant de choses, tant de maisons, tant de murs. Ben, ses mains doivent être peut-être plus usées que les miennes, j'imagine. Hein? Il y a des mains tordues par la maladie, déformées. Je pense à tes mains avec compassion, Jeannine, qui parfois, tu me les montres, font mal. Hein? Il y a des mains fortes. Il y a des petites mains roses, des petites jumelles ou de petits Adrien. C'est mignon. Des mains frêles, des mains noires, des mains blanches. Des mains habiles, des mains soignées, des mains chaleureuses. Puis il y avait encore d'autres mains, j'ai pas épuisé la liste. Mais il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais des mains comme celles de Jésus. Jamais. Il les posait sur les enfants. Ils étaient alors heureux, guéris, et même ressuscités, sortis des ombres de la mort. Voyez-vous, même les belles-mères, je pense à la belle-mère de Pierre, ont eu droit aux mains de Jésus. Bon, des mauvaises langues ont dit que c'est parce qu'après, elle s'est mise à les servir, c'était pour ça. Peut-être, je ne sais pas. Mais voyez les mains de Jésus qui rompent le pain, qui nourrit la foule par conséquent. Voyez les mains de Jésus qui calment la tempête. Puis voyez la main de Jésus qui touche l'oreille mutilée du serviteur dans le jardin où Pierre, fougueux et incontrôlable, a voulu juste faire une chirurgie esthétique, tu parles, voulait lui fendre le crâne. Jésus, belle oreille. Mais vous savez aussi ce qu'on a mis dans ses mains merveilleuses. On y a mis tout d'abord un roseau, sceptre dérisoire, symbole de faiblesse. Puis on a enfoncé des grands clous au travers de ses mains, à peu près de cette grandeur. C'est plutôt au travers de ses poignets, parce que si vous mettez un clou à ce niveau-là, le poids du corps déchirera la main et le corps tombera en avant. Donc, c'est vraisemblablement là où il y a bien des os pour retenir le clou. Et puis, pour un instant, l'instrument de pouvoir, les mains de Jésus, ont été anéanties parce qu'elles sont clouées. Mais bien loin d'être la fin de tout. Vous savez que ses mains percées, mais ressuscitées, chargées alors de toute la puissance du Père, ont conféré autorité et pouvoir aux disciples chargés de répandre son message. Allez, on parle de nos mimines maintenant. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples apeurés? Voyez mes mains entravées, percées pour vos iniquités. Elles sont déliées désormais, libres d'agir souverainement. Mais vous, allez et prophétisez, perpétuée avec une foi animée du Saint-Esprit, perpétuée, multipliée par vos mains, mes gestes de bénédiction, de guérison, de communion, dans l'accueil de l'Esprit que je vous promets qui va venir sur vous. Et voilà, c'est comme cela que l'imposition des mains va devenir, selon l'ordre de Jésus, un des fondamentaux élémentaires du ministère chrétien. Un des fondamentaux élémentaires du ministère chrétien. Paul impose les mains pour la réception de dons spirituels et pour la guérison, mais il suggère à Timothée, ne te précipite pas à imposer les mains. Du reste, nous pouvons voir que tout au long du livre des Actes, on voit qu'on pratique cette imposition des mains. Pas à la sauvette, mais une action spirituelle sentie, parfois prolongée, s'il le faut. Un véritable acte de foi, quoi. Et ce geste, bien que pratiqué principalement par les apôtres, dans les Actes des apôtres, a aussi été placé par des fidèles consacrés, et là je pense à Ananias qui n'avait rien d'un apôtre, hein, mais qui a imposé les mains à Paul. Alors aujourd'hui, je souhaite personnellement que ce geste merveilleux laissé par Jésus soit pratiqué dans une plus large mesure parmi nous. Parents, imposez les mains à vos enfants. Ils sont malades, imposez-leur les mains. Priez pour leur guérison, bénissez-les. Père, prenez vos enfants avant le coucher, imposez-leur les mains, bénissez-les. Dites du bien d'eux à Dieu. Faites cela, osez le faire. Utilisez vos mains, non pas seulement pour des claques, ça peut arriver, mais pas, faut pas que ça soit la norme. Imposez les mains à votre famille. Imposons les mains en vue de la guérison du corps et de l'âme. Imposons les mains en vue du baptême dans le Saint-Esprit. Imposons les mains en vue de l'encouragement, en vue de la pratique des dons spirituels. Imposons les mains, frères et sœurs. C'est un acte fondamental de l'Écriture. J'ajouterai un mot de caution. Nous ne venons pas à la magie. J'ai parfois cette douloureuse impression que parce que un tel ou une telle a manifesté des actes de guérison par son imposition des mains ou sa prière, on court vers lui comme on courrait au magnétiseur, au guérisseur, au magicien. Non, rien de tel. Nous n'avons rien, mais nous avons Jésus. Nos mains ne sont rien, mais elles sont le signe que les mains de Dieu s'approchent et se placent sur la personne. Je peux imposer les mains jusqu'à en avoir les phalanges qui tombent si je ne suis pas dans la foi. Forget it. J'espère que vous avez compris ce qu'est vraiment l'imposition des mains en fonction de ce que j'ai essayé de vous expliquer. En terminant, j'aimerais mentionner cette scène du jour de l'ascension. Il est parti, Jésus, en élevant ses mains sur les siens. Comme ça. À peu près. Le degré, je ne sais pas. Bref. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant élevé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Frères et sœurs, ne vous sous-estimez pas, car ses mains sont encore élevées sur nous. Les mains de Jésus sont encore élevées sur toi. Nous vivons sous le salut de sa fidélité qui a tout accompli pour que nous le suivions sur terre et jusque dans la maison du Père. et sa vie étant en nous, nous avons reçu l'autorité et la puissance en son nom pour accomplir ces actes d'amour dont nos mains posées sont le signe. Dans mon ministère, j'ai vu des guérisons extraordinaires lorsque nous avons imposé les mains. Mais loin de moi de penser que mes mains y sont pour quelque chose. Par contre, ma foi s'associant à la foi de la personne pour qui je prie, voilà ce qui va accomplir la chose. Que craignez-vous? Que craignons-nous? Ne crains pas ta faiblesse. Car justement, sa force s'accomplit dans ma faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et comme Jean, l'apôtre, exilé à Patmos, ébranlé par les visions qu'il recevait, que nous trouvons dans l'Apocalypse, ben la promesse qui lui a été faite pour lui est la même pour toi. Il posa sa main sur moi et me dit, « Ne crains pas. Ne craignez pas d'utiliser vos mains selon ce que le Seigneur souhaite et vous confie. » Amen. Alléluia, les mains de Jésus. Ce matin, quand vous allez communier, vous allez prendre le pain et le vin. Attendez-vous à ce que la main de Jésus s'abaisse sur vous. À ce qu'il touche vos êtres intérieurs, à ce qu'il touche vos corps, à ce qu'il remettre de l'ordre dans nos esprits parfois un peu enfumés ou en désordre. Jésus met sa main percée sur nous. Alléluia. Seigneur, je te remercie de ce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas laissés seuls, tu ne nous as pas laissés sans rien, tu ne nous as pas laissés simplement avec un raisonnement qui nous donnerait une croyance. Mais tu as donné ta puissance. Tu nous as laissé ta puissance. Saint-Esprit a été répandu afin que les uns et les autres, nous puissions perpétuer tes actes d'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur d'encourager chacun et de nous donner d'avoir une foi qui augmente. Une confiance inébranlable en un Dieu qui ne change pas, qui reste le même et qui s'approche de nous ce matin. Alléluia. Amen.